Chapitre 129 du discours de M. Laurédan de Valgeneuse à la Chambre des Pairs et de ceux qui sont suivis. La victoire de Navarin, dernière réaction de l'Europe contre l'Asie, venait d'être achetée au prix de 6 années de combats incessants et de luttes gigantesques. Les Épaminondas, les Alcibiades, les Thémistocles modernes stupéfiaient le monde entier. On eût dit qu'ils avaient retrouvé, comme Thésée, les pesantes épées de leur père, enfouies dans les champs de Marathon, de Leuctre et de Mantinée. À ce sentiment d'indépendance renaissant chez les Grecs après tant d'années de sommeil, sous le souffle de la Révolution française, le cœur entier de l'Europe avait battu. Hugo et Lamartine les avaient chantés, Byron était mort pour eux. Leur cause était en quelque sorte devenue la cause de la France, et l'on avait gémi à leur défaite comme on applaudissait à leur victoire. Mais plus ce sentiment était universel et national, moins il était du goût de M. de Villèle, et l'on doit se rappeler que nul plus que lui ne s'était montré ennemi de la révolution hellénique. Aussi, quand M. Laurédan de Valgeneuse, dont les opinions ultra-royalistes étaient connues, demanda la parole, la moitié ou plutôt les trois quarts des pairs qui partageaient les opinions de l'honorable père crièrent-ils d'une seule voix « Parlez, parlez !» Après avoir résumé brièvement les phases principales de l'insurrection, M. de Valgeneuse en arriva, au milieu des applaudissements de la salle tout entière, à déplorer ces événements sinistres que l'on glorifiait du nom de victoire. Toutefois, dit-il, nous ne saurions adresser un reproche au gouvernement de la majorité. Par un sentiment chevaleresque qui remonte aux croisades, il a admis cette fatale coalition contre les Turcs. Gardons toute notre colère, réservons toute notre sévérité pour ceux qui les ont mérités, pour ceux qui, par folie ou par intérêt, entretiennent la révolution chez les autres, ne pouvant les fomenter chez eux. Je ne veux nommer personne, ajouta l'orateur, et cependant le nom d'un banquier célèbre est sur toutes les lèvres. On sait à quelle caisse la révolution puise les trésors qui l'alimentent. Or, je vous le demande, messieurs, dussé-je payer la question de mon sang, en songeant aux émeutes des jours derniers, n'est-il pas permis de dire que celui qui subventionne les émeutiers de la Grèce peut bien aussi subventionner les Grecs de Paris ? Cette antithèse souleva un tonnerre d'applaudissements. Le nom de M. de Marande vola de bouche en bouche. On n'aimait pas le banquier à la Chambre des Pairs. Son élévation, subite, inattendue, au ministère des Finances, n'avait point infirmé l'opinion que l'on avait de lui. On fut donc enchanté de le voir si publiquement accusé par M. de Valgeneuse. Il y eut cependant, au milieu de ces applaudissements, plusieurs murmures. Le général Herbel interrompit le jeune père et, de sa place, protesta contre ce qui venait d'être dit, sommant M. de Valgeneuse de rétracter des paroles qui avaient tout le caractère d'une grossière insulte. « Insulte soit, répliqua M. de Valgeneuse, puisque la vérité vous semble une insulte. »« Mais, s'écria un autre père, il n'est pas possible que vous accusiez sérieusement M. de Marande d'avoir subventionné les émeutiers de la rue Saint-Denis. » « Ah, c'est vous qui le nommez, monsieur, et non pas moi, » répondit M. de Valgeneuse de la façon la plus impertinente. « Jésuite !» murmura le général assez haut pour être entendu. M. de Valgeneuse releva le mot vivement, mais non pas pour s'en fâcher, comme on eût pu le croire. « Si le général croit m'offenser, dit-il, en m'appelant jésuite, il commet la plus grave erreur. C'est absolument comme si je l'appelais militaire. Je ne pense pas qu'il verrait là une injure. » La discussion en resta là et l'on passa à l'ordre du jour. En rentrant chez lui vers 5 heures, le général Herbel trouva M. de Marande qui l'attendait. Le banquier était déjà prévenu de l'incident de la chambre et des détails qui l'avaient accompagné. En l'apercevant, le général, de son côté, se douta de la cause qui l'amenait, lui tendit la main et le fit asseoir. « Général, dit le banquier, j'ai appris avec le plus grand étonnement que M. de Valgeneuse m'avait, sans me nommer, il est vrai, mais en me désignant aussi clairement que possible, insulté à la Chambre des Pairs. Il est vrai qu'en même temps, avec une satisfaction mêlée d'orgueil, j'ai appris que vous m'aviez défendu. Être insulté par monsieur de Valgeneuse et défendu par vous, c'est un double honneur auquel j'ai été on ne peut plus sensible. Aussi, je n'ai pas voulu perdre une minute avant de venir vous remercier de votre intervention dans cette affaire. Le général s'inclina de l'air de l'homme qui veut dire « Je n'ai fait que remplir mon devoir d'honnête homme ». Puis, continua le banquier, cela m'a donné un espoir, c'est que, vous étant rallié à moi, sans être prié par moi, vous voudriez bien ne point m'abandonner dans la suite que j'ai l'intention de donner à cette insulte. Je suis à votre disposition, mon cher monsieur de Marande, et par ma foi, vous connaissant comme je vous connais, j'ai été sur le point de ne pas attendre la démarche que vous faites près de moi, et de demander en votre nom, en sortant de la chambre, réparation à votre insulteur. Voilà une attention qui me comble, général, car elle indique tout le cas que vous voulez bien faire de ma personne. Maintenant, dit le général, vous connaissez votre adversaire. Peu. C'est un jeune fat qui n'a nulle consistance dans les idées. « Oh !» fit monsieur de Marande, en fronçant le sourcil et en donnant à son visage une expression de haine qu'on ne l'eût pas cru susceptible d'atteindre. « Ces sortes de redrôles, fit le général, ont rarement, après dîner, la même opinion qu'ils avaient auparavant. « Eh bien, mais général, dit en riant monsieur de Marande, il y a un moyen de l'empêcher de changer d'opinion après dîner. Lequel ?» C'est de tout régler avec lui avant dîner. Le banquier tira sa montre. Il n'est que 5 heures, il ne dîne pas avant 6h30. Si vous voulez bien me servir de premier témoin, nous allons monter en voiture pour en chercher un second, et en route nous dirons un mot des conditions du combat. De tout mon cœur, répondit le général, seulement j'ai peur qu'on ait dételé. Oh, peu importe, j'ai ma voiture, fit monsieur de Marande. Rue Macon, numéro 4, dit-il au cocher. Rue Macon, répéta le général en ayant l'air de se demander ce que c'était que la rue Macon. La voiture partit au galop. Où diable sommes-nous? Demanda le général en voyant la voiture s'arrêter devant la porte de Salvatore. Nous sommes où j'ai dit à mon cocher de nous conduire. Oh, la vilaine rue! Puis, regardant la maison, « C'est là que nous allons ?» demanda le comte Herbel. « Oui, général, répondit M. de Marande en souriant. « Oh, la vilaine maison !»« Eh bien, dit M. de Marande, c'est dans cette rue et dans cette maison que demeure un des hommes les plus honnêtes et les plus braves que je connaisse. »« Comment l'appelez-vous »« Salvatore. »« Salvatore, et quelles sont ses fonctions ?» M. de Marande sourit. « Mais, à ce que l'on assure, il est commissionnaire. Ah, je commence à m'y reconnaître. Oui, oui, j'ai entendu parler de cette espèce de philosophe par le général de Lafayette, qui en faisait grand cas. Non seulement vous avez entendu parler de lui, général, mais plus d'une fois vous avez causé avec lui. « Où cela ?» demanda le général, étonné. « Chez moi. J'ai causé chez vous, avec un commissionnaire. » Oh, vous comprenez qu'il n'avait pas chez moi sa veste et ses crochets. Il était en habit, comme vous et moi, et on l'appelait monsieur de Valsigny. Ah, j'y suis, s'écria le général. Un jeune homme charmant. Eh bien, je vais lui demander d'être mon second témoin. C'est un homme fort influent dans les élections et les réélections. Or, je serais bien aise qu'il pût rendre témoignage à tout un côté du monde qui ne voit qu'à travers les carreaux de ma voiture. « Ah, très bien, dit le général, en suivant le banquier. » Ils montèrent les 3 étages et arrivèrent devant la porte de Salvatore. Ce fut lui qui ouvrit. Le jeune homme venait de rentrer. Il était encore en veste et en pantalon de velours. « Mon cher Valsigny, dit M. de Marante, je viens vous demander un service. »« Parlez, fit Salvatore. » Vous m'avez maintes fois offert votre amitié en échange de la mienne. Eh bien, de cette amitié, je viens vous demander une preuve. À vos ordres. Je me bats demain en duel. Voici monsieur le général Herbel qui a accepté d'être un de mes témoins. Voulez-vous me faire l'honneur d'être l'autre? Volontiers, monsieur, et je ne vous demande que 2 choses. La cause du duel et le nom de celui qui vous a insulté. Monsieur Laurédan de Valgeneuse vient de m'attaquer d'une façon si inconvenante à la chambre que je ne puis me dispenser de lui en demander raison. Laurédan, s'écria Salvator. Vous le connaissez? Demanda monsieur de Marante. Oui, répondit Salvator en hochant tristement la tête. Oh oui, je le connais. Mais le connaissez-vous assez intimement pour refuser de me servir de témoin contre lui? Écoutez, monsieur, dit lentement et gravement Salvator, je hais monsieur de Valgeneuse pour des raisons que vous connaîtrez un jour, et ce jour est très prochain, si j'en crois mes pressentiments. J'aurai même une offense personnelle à venger sur lui. Mais il y a de par le monde un homme à qui j'ai juré de ne pas toucher à un cheveu de sa tête. Or, il me semble, messieurs, que si j'acceptais le rôle de témoin, et que dans la rencontre qui va avoir lieu il arriva un malheur à notre ennemi, je ne tiendrai pas exactement la parole que j'ai donnée. Vous avez raison, mon cher Valsigny, dit monsieur de Marante, il ne me reste plus qu'à vous demander pardon de vous avoir dérangé. Si je ne puis vous servir de témoin, dit Salvator, je puis peut-être vous être d'une certaine utilité comme chirurgien, et si vous voulez bien m'accepter, je me mets à votre disposition. Je savais bien que vous me rendriez un service quelconque, dit monsieur de Marande en tendant la main à Salvator. Et il sortit, suivi du général, lequel se chargea de venir prendre le lendemain matin le jeune homme qui, à titre de chirurgien, croyait pouvoir, sans inconvénient, assister au combat. De la rue Mâcon, on se rendit à la rue de Luxembourg, où demeurait le général Pajol, lequel accepta sans hésitation la proposition de monsieur de Marande. Un quart d'heure après, les deux généraux entraient dans le salon de monsieur de Valgeneuse, qu'ils trouvèrent couché sur un canapé, riant à gorge déployée des bons mots que débitaient Camille de Rosan et un autre fat de ses amis. « Monsieur, dit le comte Herbel, le général Pajol et moi désirons vous entretenir quelques instants en particulier. » « Mais pourquoi donc en particulier, messieurs ?» s'écria Laurédan. « Vous pouvez au contraire parler devant mes amis, je n'ai rien de caché pour eux. »« En ce cas, monsieur, reprit sèchement le comte Herbel, nous avons l'honneur de vous demander de la part de monsieur de Marande réparation de l'insulte que vous lui avez faite. »« Vous êtes les témoins de monsieur de Marande ?» demanda Laurédan. « Oui, monsieur, répondirent en même temps les deux généraux. » « Eh bien, messieurs, dit monsieur de Valgeneuse en se levant et en désignant les deux jeunes gens, voici les miens. Veuillez vous entendre avec eux, je leur donne mes pleins pouvoirs. » Puis, saluant assez dédaigneusement les deux témoins de monsieur de Marande, il sortit en disant à Camille, « Je fais servir, dépêchez-vous d'en finir, Camille, je meurs de faim. » « Messieurs, dit le général Herbel, vous connaissez l'injure dont nous venons vous demander réparation. » « Oui, dit Camille, en souriant imperceptiblement. « Je crois donc inutile, continua le général, d'entrer dans les détails. »« En effet, complètement inutile, continua Camille, avec le même sourire. « Avez-vous l'intention de réparer l'offense que vous nous avez faite ?»« Cela dépend du genre de réparation. « Je vous demande si vous êtes disposé à faire des excuses. » Pour cela, non, dit Camille. Toute excuse, au contraire, nous est expressément défendue. Alors, repartit le général, il ne nous reste plus qu'à régler les différentes conditions du combat. Vous êtes insulté, dit Camille, faites vos conditions. Voilà ce que nous avons l'honneur de vous proposer. On se battra au pistolet. Au pistolet, très bien. Les adversaires seront placés à 40 pas de distance et pourront faire ou ne pas faire chacun 15 pas. De sorte que si chacun fait ses 15 pas, on se battra à 10 pas. À 10 pas, oui, monsieur. Oh, c'est une jolie distance. À 10 pas, soit. Les pistolets seront pris chez le page, afin qu'ils soient parfaitement inconnus aux adversaires. Qui les prendra? Chacun de nous en apportera une paire, ou, si vous l'aimez mieux, le garçon armurier qui chargera les armes en apportera 2 paires. On tirera au sort ceux dont on se servira. Tout va bien. Maintenant, messieurs, le lieu du rendez-vous. Allée de la Muette, si vous voulez bien. Allée de la Muette, il y a au bout de l'allée une espèce de petite plaine où rien ne peut servir de guide à l'œil et qui semble faite exprès pour une rencontre. Va pour la petite plaine. Ah, nous oublions l'heure. Il ne fait pas clair avant 7 heures. Mettons le rendez-vous à 9. À 9, parfaitement, monsieur. Au moins, on a le temps de faire un bout de toilette. Il ne nous reste plus, messieurs, qu'à vous présenter nos salutations, dirent les deux militaires. Recevez les nôtres, firent les deux jeunes gens en se levant. À peine ceux-ci avaient-ils disparu que M. de Valgeneuse rentra dans le salon en disant « Ah, lambin que vous êtes, j'ai cru que vous n'en finiriez pas. Voici nos conventions, dit Camille. « Oh, nos conventions, fit Loredan, je les connais. Nous sommes convenus de dîner à 6h30 et il est 6h35. Mais je te parle du duel. Et moi du dîner. Un duel peut se remettre, un dîner jamais. À table, donc. À table, dirent en même temps les deux jeunes gens. Et tous trois s'élancèrent vers la salle à manger, où mademoiselle Suzanne de Valgeneuse les attendait. Le dîner fut un éclat de rire à 3 services. On y médit de tout Paris, et en particulier du banquier. On s'acharna à ridiculiser M. de Marande. On l'abîma politiquement, financièrement, moralement, et par-dessus tout, physiquement. Il ne fut pas plus question du duel du lendemain que de l'empereur de Chine. Était-ce par respect pour la présence d'une femme, par insouciance ou par orgueilleuse certitude du résultat? Nous l'ignorons, ou plutôt nous pensons qu'il y avait un peu de tout cela dans le silence des 3 jeunes gens. Ils en étaient au dessert quand le domestique particulier de M. de Valgeneuse présenta à son maître une carte sur un plat d'argent. Loredan jeta les yeux sur la carte. « Conrad ! » s'écria-t-il. « Conrad, murmura tout bas mademoiselle de Valgeneuse en pâlissant légèrement, que nous veut-il ? » De son côté, et malgré lui, Loredan devint pâle comme la tasse de sèvre qu'il portait à ses lèvres. Camille s'aperçut de cette double émotion qui atteignait à la fois le frère et la sœur. « J'ai le regret de vous quitter un moment, » balbutia monsieur de Valgeneuse, et se tournant vers le domestique, « faites entrer dans mon cabinet, » dit-il. Puis, se levant, « À tout à l'heure, messieurs !» Et il se dirigea vers la porte qui conduisait de la salle à manger à son cabinet. Salvatore l'attendait debout. Il était impossible d'être vêtu plus élégamment que ne l'était Salvatore et d'avoir un aspect plus calme et plus noble que ne l'avait le jeune homme. C'était bien cette fois Conrad de Valgeneuse, comme il s'était fait annoncer. « Que me voulez-vous ? » lui demanda Loredan avec un regard plein de haine. « Je désire causer un instant avec vous, » répondit Salvatore. « Oubliez-vous qu'il n'y a qu'un sujet de conversation possible entre nous ?»« La haine que nous avons l'un pour l'autre. Non, mon cousin, je ne l'oublie pas, et ma visite en est la preuve. »« Viendriez-vous pour qu'une bonne fois nous en finissions avec cette haine ?»« Nullement. Alors que me voulez-vous ?»« Je vais vous le dire, mon cousin. Vous vous battez demain, n'est-ce pas ?» Que vous importe? Cela importe, non seulement à moi, mais à nous deux, comme vous allez voir. Vous vous battez demain avec monsieur de Marande à 9 heures au bois de Boulogne au pistolet. Vous voyez que je suis bien instruit. Oui, reste à savoir dans quel lieu vous puisez vos instructions. Salvatore haussa les épaules. De quelque façon que j'ai appris votre duel, il n'en résulte pas moins que j'en suis instruit, et ce sera le sujet de notre conversation, si vous le voulez bien. Viendrez-vous par hasard pour me faire de la morale? Moi, oh non, par exemple, je suppose au contraire que vous vous en faites à vous-même, et surabondamment. Non, je viens tout simplement vous rendre un service. Vous? Cela vous étonne? « Si vous êtes venu pour plaisanter, je vous préviens que vous avez mal choisi votre temps. »« Je ne plaisante jamais avec mes ennemis, » dit gravement Salvatore. « Alors finissons-en, que me voulez-vous? Dites !»« Connaissez-vous particulièrement M. de Marande ?»« Oh, je le connais assez pour lui donner, je l'espère, demain, une leçon dont il se souviendra, si toutefois il a le temps de se souvenir. » « Alors, fit Salvatore, je vois que vous ne connaissez point particulièrement M. de Marande. Il a jusqu'ici donné parfois des leçons, mais il n'en a pas encore reçu. »« Loredan regarda son cousin en pitié et à son tour haussa les épaules. « Ah, cela vous fait hausser les épaules, » répliqua Conrad. « Je m'explique que vous ayez confiance en vous-même, mais ayez un instant de confiance pour moi et écoutez ce que je vous dis. Monsieur de Marante vous tuera. »« Monsieur de Marante !» s'écria en éclatant de rire le jeune homme. « Ah, cela vous amuse. En effet, un banquier, tuer un homme de votre naissance et de votre mérite, la bonne histoire. Un pistolet contre un sac d'écus. Eh bien, c'est là que vous allez comprendre l'étendue du service que je vous rends. Monsieur de Marante s'est déjà battu 4 fois, à ma connaissance, et à chaque fois, il a tué son homme. Entre autres, à Livourne, monsieur de Bedmar, qui était de vos amis, autant que je puis me rappeler. Monsieur de Bedmar est mort d'apoplexie, répondit Loredan, quelque peu troublé. Monsieur de Bedmar est mort d'un coup de pistolet, mon cousin. Sachez une chose, c'est que chaque fois qu'une famille veut dissimuler, pour une raison ou pour une autre, le genre de mort d'un de ses membres, elle l'appelle l'apoplexie à son secours. C'est d'une simplicité d'enfant. Eh bien, écoutez ceci. Demain, entre 9h et 9h15 du matin, vous mourrez, comme monsieur de Bedmar, d'une apoplexie. Et j'ajoute, si cela peut vous être agréable, que je ferai mettre dans les journaux le genre de mort que vous aurez choisi. « Allons, c'est assez raillé, » dit monsieur de Valgeneuse en s'animant de plus en plus, « et je vous prie d'en rester là si vous ne voulez point que la conversation prenne une autre tournure. » « Quelle tournure voulez-vous qu'elle prenne? Vous imagineriez-vous, par hasard, mon cousin, que vous êtes de taille à me jeter par la fenêtre ?» S'il en était ainsi, par hasard, regardez-moi. » Et en disant ces mots, Conrad étendit 2 bras dont les muscles se dessinaient sur le drap de son habit. Loredan fit machinalement un pas en arrière. « Terminons, dit-il, que me voulez-vous ? Je viens vous demander quelles sont vos dernières volontés, vous promettant de les exécuter fidèlement. » Certainement, dit Loredan, vous avez parié avec quelqu'un des vôtres de me faire cette mystification. Je ne parie jamais, monsieur, et ne mystifie personne. Je vous dis que vous serez tué, parce que l'homme contre lequel vous vous battez demain, outre qu'il a fait ses preuves, est foncièrement brave. Tandis que vous, tenez, regardez-vous dans cette glace, tandis que vous, vous êtes blême, et votre visage est inondé de sueur. J'ajouterai au reste que, si vous n'êtes pas tout à fait mort demain, il y a de par le monde un homme qui continuera ce que monsieur de Marante aura commencé. « Vous, sans doute, » répliqua Loredan en jetant à son cousin un regard de haine. « Non, moi, » répondit Salvatore, « je ne viens qu'en 3e. »« De qui parlez-vous alors ?»« Du père de la jeune fille que vous avez enlevée et que j'ai sauvée de vos mains, du père de Mina. » « Écoutez-moi donc sérieusement, » dit Conrad, « aussi sérieusement que je vous parle. J'ai déjà perdu trop de temps ici. Votre mort est certaine, car si vous ne succombez pas sous les coups de l'un, vous tomberez sous ceux de l'autre. Eh bien, au nom de votre père, qui était pur parmi les purs, au nom de votre mère, que la douleur a conduite au tombeau, au nom de vos aïeux, ces vertueux gentilshommes dont nulle tâche n'a souillé le blason, au nom du respect humain, s'il vous reste une vertu, au nom du Dieu juste, s'il vous reste une croyance, je vous adjure de me dire quels actes commis par vous j'aurai à réparer. Ah, « Monsieur, c'est trop de folie ou d'impertinence !» s'écria Loredan. « Je vous ordonne de sortir de chez moi !» Et moi, pour la seconde fois, je vous adjure de ne pas laisser derrière vous un acte qui puisse entacher 1000 années de vertu. « Cessons cette plaisanterie, monsieur, et sortez !» dit impérieusement monsieur de Valgeneuse. Mais Conrad resta calme et immobile à sa place. « Pour la 3e fois, reprit-il, je vous adjure de dire ce que vous avez fait de mal, pour qu'après vous, je change en bien ce mal que vous avez fait. » « Sortez, sortez !» s'écria Loredan, sautant sur le cordon de sa sonnette et le faisant retentir violemment. « Que Dieu vous fasse miséricorde à l'heure de votre mort, » dit gravement Conrad. Et il sortit.